gentlemen. Guten Abend, bonsoir, good evening. Pickets, do you feel good? Comment ça va?
À toi qui écoutes le 102.2 de la bande FM à Lyon et sa région, ou le radiocanu.org partout ailleurs. C'est 22h passées de quelques minutes. Oui, je sais. Et c'est l'heure de la causerie. Et ce soir, à la causerie, nous avons Clara à la technique.
Bonsoir.
Bonsoir. Et nous avons Fab aussi.
Pas la technique.
Pas la technique, bonsoir. Évidemment, ça s'entendrait.
Ouais, ça c'est vrai. Alors, je tiens à le dire, c'est vrai. Mais bonsoir. Bonsoir Jean-Yves.
Mais bonsoir.
Du coup, voilà. Une équipe au complet.
C'est tout à fait cela.
Pour cette émission.
Oui.
Et d'ailleurs, on va la démarrer, cette émission. Parce
mais oui,
on est un petit peu flottant. Mais allons-y, on va aller dans le vif du sujet. On va prévenir juste, émission un peu difficile. Hein, on vous prévient avant. Donc voilà. Et avec, qui abordera des sujets pas très simples. Mais en tout cas, on vous invite à rester malgré tout. Et Jean-Yves, c'est toi qui commences.
C'est tout à fait cela. En 2017, hein, dans la causerie 224, j'avais tenté une réflexion autour de la notion, autour de l'utilisation du mot « monstre » pour désigner les tueurs, les violeurs, les agresseurs. Et je voulais m'appuyer sur l'actualité, à savoir le procès qui est actuellement devant la cour criminelle du Vaucluse, pour tenter de continuer cette réflexion. Pardon. Non, pardon, oui. Non, c'est juste quand t'entendais respirer. Quand... pardon.
Voilà, c'est tout.
Pardon. C'est juste ça. Pardon. Allez, je continue.
Allez, concentre-toi.
Alors, ouais. Il s'agit donc du procès de 51 hommes jugés pour viol aggravé contre Gisèle Pellicot, qui était droguée par Dominique Pellicot, hein, qui était son mari, ex-mari aujourd'hui. 51 violeurs, en sachant qu'il y en a plus d'une vingtaine qui n'ont pas pu être identifiés. Hein. Le profil des accusés, les profils des accusés sont très divers, hein, de 26 à 74 ans. On y compte des ex-policiers, des électriciens, journalistes, plombiers, élagueurs. Certains sont mariés et certains sont aussi parents, hein, pères. Bref, 51 monsieur tout le monde, 51 hommes lambda. On est donc loin des monstres que beaucoup aiment à imaginer. Pour mettre tout cela à distance, pour ne pas s'interroger et ne surtout rien changer dans notre merveilleuse société. Alors que nous sommes bien face à des êtres humains qui ne s'interrogent pas, face à une femme inerte qui ne réagit pas. Des hommes qui ne sont pas interpellés par le fait de n'avoir jamais parler à la première concernée de soi-disant plan cul souhaité par tout le monde. Ben non, les hommes ont des envies, les femmes sont censées être à leur disposition, forcément volontaires évidemment, et puis ils en ont parlé entre hommes, hein, qu'ils ont choisi entre hommes et cela suffit. Évidemment, encore une fois. Et pour preuve, hein, dans cette affaire, on a vu la défense de certains accusés. L'un d'entre eux a expliqué, je le cite, hein, « C'est sa femme, il fait ce qu'il veut ». D'autres ont parlé de délégation de consentement, ce qui signifierait que parce que l'homme donne son accord, entendez, le mari ou le compagnon, etc., donne son accord, eh ben alors un autre homme peut utiliser le corps de sa femme. Hein ? Et le pire dans tout ça, c'est que je pense que c'est pas juste une défense. Je pense personnellement que beaucoup de ces accusés...
Ah, ils le pensent.
croit vraiment oui, ça en fait. C'est-à-dire qu'il croit vraiment en fait que l'époux, le compagnon fait ce qu'il veut de sa femme. Ah oui. Loin d'être face à des monstres, nous sommes là face à des hommes tout puissants dans une société patriarcale. Ils n'ont rien de monstre. Alors une société qui permet à des hommes de faire d'une femme leur objet, leur chose. Des hommes qui, depuis gamins, sont éduqués majoritairement avec les signaux d'un monde où l'homme, l'être humain du genre masculin, a le monde entre ses mains et où les femmes ne seraient dispo, seraient dispo pour les envies masculines. Et d'ailleurs, soi-disant, toujours selon cette belle vision patriarcale, elles n'attendraient que ça, en fait, les femmes, évidemment. Donc, des hommes éduqués dans un monde où les mecs sont amenés à s'interroger sur rien, si ce n'est sur leur force, la longueur de leur tub, ou leur virilité, ou encore leur honneur, parce que l'honneur des hommes, vous savez, c'est vraiment un truc... Enfin bref, un monde où ils ne sont responsables de rien et pardonnables de tout. Des mecs qui grandissent dans l'apprentissage d'une vie où il n'y a que leur plaisir qui compte, que leur avis qui est important, et que nous, les hommes, sommes le centre du monde, si ce n'est le centre de l'univers. Et que rien, absolument rien, ne saurait se mettre en travers de tout cela. Et encore moins d'autres mecs qui viendraient potentiellement s'opposer à leurs propos, à leurs actes. La solidarité masculine, patriarcale, est une des clés pour que tout cela ne change pas. Alors nous évoluons toutes et tous dans un monde où le moindre violeur sera protégé par la remise en cause de l'attitude de la victime, de la tenue de la victime, de son passé de victime, comme si toute chose qui concernerait potentiellement la victime serait une excuse suffisante pour pardonner encore une fois, ou en tout cas dégager de toute responsabilité l'agresseur, le violeur. Bref, quelle que soit la situation, le premier réflexe de la majorité de la société, hommes et femmes, en partie en tout cas, sera de dédouaner, de trouver des circonstances atténuantes à l'agresseur, au violeur. Et c'est aussi le cas, pour le procès que j'évoque depuis le début de ce sujet. On a des interviews de compagnes d'accusés qui disent qu'il était aimant, doux, et qui sont relatées dans des journaux, c'est-à-dire sans contrebalancer un propos, etc. Et qu'il était, je cite encore, un bon père de famille, etc. Bref, c'est pas le profil d'un monstre, en fait, ça. Eh ben non. Ou encore, on a le droit aussi à des défenses, ou en tout cas des propos tels que « il a été victime de pédocriminalité ». Et donc, en fait, ça te dédouanerait de quelque chose ? Ça expliquerait quelque chose ? Là aussi, c'est comme un gros coup, comme un crachat à la gueule des millions de victimes dont on a déjà parlé ici, de pédocriminalité. En fait, on compterait des millions d'hommes et de femmes, vu que les femmes, même petites filles, sont majoritairement des victimes de pédocriminalité, on les compterait toutes comme des violeurs, des violeuses aujourd'hui. Ça n'a absolument... On ne comprend même pas, en fait, ce que vient faire cette chose-là, ce propos, dans un tel procès, en fait. Et je pourrais aussi, je ne l'ai pas creusé, mais parler de l'approche des médias sur ce procès en particulier, mais ça vaut pour toutes les affaires de viol. On va utiliser des grands mots... Le procès monstre, le procès de qui dépasse tout entendement. Pourquoi, en fait ? En fait, il y a des choses qui sont assez connues, en fait, parce que... Et je me disais qu'en fait, tout cela, ça démontre bien que nous, individuellement et collectivement, on n'a absolument rien intégré, rien compris, en fait, des faits, des études menées depuis bien longtemps. En fait, c'est ce que je disais, il n'y a pas grand-chose en fait, de spectaculaire dans le profil des agresseurs, comme je vous le disais au début. On sait que 91% des violeurs connaissent leurs victimes, que 50% des viols sont le fait du mari, du compagnon ou ex-compagnon. Donc, il y a quoi d'extraordinaire dans ce qui se passe là, en fait, finalement ?
Le volume,
mais...
En
fait, c'est ça, quoi. C'est tout le problème de cette présentation médiatique aussi, quoi. Et on sait aussi, par exemple, c'est un petit ajout, mais on sait aussi que pour les violences intrafamiliales, le père est souvent au cœur des violences. Il y a en France, par exemple, 45 interventions de la police par heure pour des cas de violences intrafamiliales. Et on parle là aussi encore de bon père de famille. Hein, on ne parle pas de gangsters ou de gens complètement en marge de la société, de ruelles sombres, etc., etc. Ça ne veut pas dire, attention, je ne suis pas en train de dire que ça n'existe pas ces cas-là, mais on le voit bien, les chiffres le démontrent et les enquêtes le démontrent. L'inconnu qui agresse, viole dans une ruelle sombre, c'est ultra minoritaire en fait. C'est loin de la réalité. Mais là encore une fois, ça permet de garder tout ça à distance tranquillement. Hein. Alors, parce que là effectivement, et on l'a dans ce procès encore une fois, hein, ce sont des gens insérés dans la société, qui ont un emploi, qui ont un logement, une famille, des enfants. Encore une fois, monsieur lambda, monsieur tout le monde. Et il y avait aussi, je suis retombé sur un autre chiffre et je pense qu'il faut aussi se le rappeler, hein, c'est une étude qui avait été menée à l'université de Lille qui date de 2016, qui démontrait que 50% des hommes pourraient user de stratagèmes rusés, plus ou moins violents, pour forcer le consentement d'une femme. Et 30% des hommes violeraient une femme s'ils étaient certains qu'elle n'irait pas porter plainte. Et des chiffres en hausse lorsqu'ils consomment de l'alcool. Mais là, encore une fois, hein, l'alcool, c'est pas un déclencheur, hein, c'est un révélateur. Hein,
un désinhibiteur.
C'est un désinhibiteur, c'est tout à fait ça. Hein. Donc, je croyais que tu voulais dire quelque chose.
Je bougeais juste mon micro.
C'est dans ce monde hein, où la culture de viol est la norme que nous vivons. Et c'est, je crois, absolument important de continuer de le répéter et de surtout... l'intégrer et s'interroger là-dessus, quoi. Et qui plus est, certainement, nous, ceux qui nous reconnaissons dans le genre masculin. On ne changera pas cela, hein, si on a l'ambition de le changer, évidemment, en parlant de monstres, en trouvant des circonstances soi-disant atténuantes pour les agresseurs, les violeurs. Non, il va vraiment falloir cesser de se mettre la tête dans le sable pour ne pas voir, pour ne pas entendre et pour ne rien changer. Et dans tout ça, en fait, il va falloir aussi des enquêtes et donc des moyens pour tout signalement. Hein, et on s'éloignera pour sûr des 94% de plaintes pour viol qui étaient classées sans suite en 2020. Un chiffre qui est en hausse constante depuis MeToo. Par manque de moyens, souvent justement, aucune enquête n'est menée. Le mis en cause, dont l'identité quand même est connue dans 80% des cas, ce qui est là encore n'est pas anodin, n'est pas convoqué, son portable n'est pas fouillé, les preuves ne sont pas collectées ou ne sont pas sauvegardées, les preuves de soumission chimique ne sont pas récoltées ni conservées, et la sérialité n'est pas prise en compte. Et avec tout ça, on peut effectivement se demander, je partage là un morceau de la tribune de la Fondation des Femmes, combien de Dominique Pellicot continueront et continuent d'agir en totale impunité, en fait. Parce que c'est vraiment toute la société qui, finalement, est dans un laisser-faire parce qu'elle ne prend pas les choses à bras-le-corps et pour vraiment affronter ça. Et il faut aussi, évidemment, hein, parce que éduquer les humains, hein, dès le plus jeune âge et jusqu'à la mort, hein, parce que finalement, on continue de s'éduquer toutes et tous, ou en tout cas d'apprendre, de s'instruire.
Alors, on n'arrête jamais d'apprendre.
C'est ça le truc. Mais j'ai quand même l'impression que dans beaucoup de nos semblables, il y a un peu un côté...
Je sais tout après mes 18 ans.
Oui, c'est un peu ça, j'ai fini l'école, donc je sais tout. C'est que t'es déjà mal barré, quoi. Et donc, jusqu'à la mort. Et justement, éduquer hein, au respect de l'autre, au consentement. Et il ne s'agit pas non plus, selon moi, de l'envisager que dans le cadre de la sexualité. Hein, ça n'agit pas que à ce moment-là, en fait. Alors, un exemple hein, que vous pourrez certainement trouver complètement hors sujet, mais je me dis toujours combien de parents, finalement, obligent leur enfant à faire des bisous hein, même si ces mêmes enfants ne le souhaitent pas. Hein, combien percent les oreilles de leur enfant, souvent des filles, alors que leur avis n'a pas été demandé? Combien mutilent le corps de leurs enfants sans leur demander quoi que ce soit? Et je me dis, bref, le respect des individus et le non-respect de ces mêmes individus hein, soignent en fait de notre monde. Où souvent, dès le plus jeune âge, justement, nous devons intégrer que nous ne sommes que des êtres à la merci d'autres, qui ne sommes... que le fruit de décisions de gens qui sont toujours au-dessus de nous. Alors le au-dessus, ça peut être le lien parental, etc. Mais il y a toujours une sorte de hiérarchisation des individus et il y en aura toujours un qui sera en position de choisir pour nous, etc. Et ça, c'est vraiment depuis le plus jeune âge, en fait. Et avec tout ça, je pense que ça peut pas aider à changer le monde, en fait. Parce que je suis un éternel naïf, certainement, mais c'est la révolution de libération, elle sera totale ou elle sera pas, en fait. Parce que justement... ce côté de non-consentement, vraiment, je le vois dans plein de niveaux. Et bien, en fait, si on l'accepte à certains seuils de nos vies, pourquoi, en fait, on l'accepterait pas à d'autres, en fait? Pourquoi, d'un coup, ça ne deviendrait plus normal de ne pas attendre le consentement de l'autre? Bah, c'est peut-être ça qui cloche dans notre société, quoi. Bref, je ne peux évidemment pas terminer non plus, hein, sans une pensée pour Gisèle Pélicot, qui est absolument bluffante, comme bien d'autres victimes. Mais alors là, elle a quand même un sacré courage. Et évidemment, donc Gisèle Pélicot, mais aussi toutes les victimes, hein, de viols, d'agressions sexuelles, avec ou sans soumission chimique, adultes et enfants. Et justement, autour de la soumission chimique, il y a la fille de Gisèle Pélicot, qui s'appelle Caroline Darian, qui elle a monté une asso qui s'appelle M'endort pas, stop à la soumission chimique. Bah pareil, on vous mettra le lien sur le blog, pardon, de l'émission. Et là aussi, c'est un sujet dont on parle peu, en tout cas on en a souvent parlé autour du GHB, c'est-à-dire qu'on sait tous, on connaît toutes et tous le GHB, sauf qu'en fait l'ex-mari de, ou en tout cas le violeur, c'était du Valium et des somnifères, ouais. Je ne sais plus, mais oui, des somnifères en fait. Donc c'est aussi ça en fait, c'est juste ne pas s'arrêter à la soumission chimique, c'est un verre d'un inconnu, là encore une fois, sortons de l'inconnu, c'est souvent quelqu'un de bien connu de la victime, et c'est pas juste un verre dans une soirée avec du GHB, c'est plus complexe et plus large et plus vaste que ça, la soumission chimique, pardon. Voilà pour moi.
Ouais, mais juste, je voulais... pas ajouter parce que je trouve ta chronique parfaite, mais non plus exprimer quelque chose en fait qui m'est venu pendant que tu lisais. Il y a un avocat, un des prévenus qui a fait scandale parce qu'il a donc il a réinventé la loi. Il nous a expliqué qu'il y avait viol et viol. Mm-hmm. Donc il y a le viol que tu veux commettre et le viol que tu commets mais que tu voulais pas commettre. Voilà, c'est un peu surréaliste. Un viol c'est un viol. Hein, voilà. Et en fait le problème c'est la culture, comme tu disais, on vit dans une culture du viol et c'est une réalité. Dans tous les strates de la société, voilà, je veux pas. Et le problème, c'est comment on passe d'une culture du viol à la culture du consentement. Et quand on dit ça, moi, j'ai vu, hein, les réactions. Alors, je vais le dire là, mais parce que j'ai vu des réactions, moi, qui m'ont choqué, venant de gens censés être éduqués. Je dis ça au sens éducation politique, hein, pas au sens d'avoir été à l'école. Qui, d'un seul coup, se sont obligés d'écrire « Oui, mais pas tous les hommes. Oui, mais ceci. Bah, »« Not all men » en anglais. Et en fait, je trouve ça juste surréaliste. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont été choqués parce que des féministes sont sortis avec des panneaux écrits « tous les hommes ». Alors, on va leur juste leur dire tranquillement, ça veut dire « tous les types d'hommes ». Et justement, ce que tu décrivais montre bien que oui, il n'y a pas de profil type du violeur. C'est-à-dire que ça peut être tout type d'homme.
Ou alors, le profil type, c'est « monsieur tout le monde ».
Voilà, c'est ça. Et en fait, du coup, ils se sont sentis obligés d'écrire ça. Et moi, ça m'a interpellé sur une notion, et il y a une comique qui a réagi en disant, j'ai perdu son nom de nouveau, Caroline Vigneault, qui disait c'est quand même dingue que tous ces gens qui sont obligés d'écrire ça, mais qu'est-ce qu'ils cachent. C'est vrai qu'elle disait, mais normalement quand on se sent pas concerné par un slogan, on se sent pas obligé de contrer le slogan. C'est-à-dire qu'à un moment donné on se dit oui, elles ont raison, et puis voilà, on passe à autre chose, voilà. Et en fait elle disait, ce qui est dingue, c'est elle disait la vague qu'il y a de d'hommes, et surtout elle, ce qui l'a choqué tout comme moi, c'était venant parfois d'hommes qui se réclament de la gauche, des choses comme ça, voilà, qui disent mais quand même, qui commencent à nuancer. Enfin, elle dit, à un moment donné, vous cachez quoi? Et en fait c'est une vraie bonne question, c'est-à-dire que comme on est dans une société quand même où on a tous, je parle pour les mecs, pour le genre masculin, on a tous à un moment donné dérapé. Arrêtez de rêver, vous avez été élevés comme des petits garçons, même dans le meilleur truc du monde, en fait vous avez sûrement dérapé. Voilà, vous savez, pas forcément, je parle pas de violer, hein, je parle pas de ça, mais vous avez eu des positionnements de merde parce que vous êtes senti supérieur aux autres, parce que vous avez estimé que c'est une femme qui parlait, vous avez le droit de lui couper la parole, parce que voilà, parce qu'on vous a éduqué comme ça et parce que la société vous éduque comme ça, parce que dès l'école, d'ailleurs c'est démontré, on parlait des études, il y a des études qui démontrent que à l'école, en fait, on donne plus la parole aux garçons qu'aux petites filles, par exemple. Vous voyez, c'est tout bête, hein, mais en fait quand on commence comme ça, ça hiérarchise une société. Bon. Et en fait, le problème, c'est que dans cette vague, qui est quand même une vague MeToo et tout le reste, qui est quand même hyper intéressante, c'est-à-dire c'est une vague de remise en question de la société, on a une résistance qui se fait par... qui essaye de résister à une sororité, c'est-à-dire un lien entre les femmes, par une masculinité toxique qui se remet en avant, mais de façon extrêmement violente. Et où on voit arriver des gens qui vont nuancer, machin. Et même parfois des alliés qu'on n'attendait pas. Hein. Enfin, je veux dire, il suffit de voir le dernier livre de Caroline Fourest qui vous explique que MeToo, c'est bien, mais quand même... faudrait que ça aille pas trop loin, quoi. En fait, on a l'impression qu'on marche sur la tête d'un seul coup, en fait, d'avoir une espèce de réaction. Mais ce qui est terrible, c'est que ça suit la vague réactionnaire.
Oui.
C'est-à-dire qu'en fait, d'un seul coup, c'est comme si on commençait à dire, bon, MeToo, serait bien que ça s'arrête. C'est-à-dire que là, voilà, et puis bon, Pellico, ok, mais ça se trouve, il n'y en a pas d'autres, hein, ça sera le seul procès comme ça. Sauf qu'en fait, la question qui est posée, ce que tu disais à la fin de ta chronique, elle est juste, combien il y a de Pellico? Parce que je vais juste rappeler pourquoi, en fait, on a su. C'est parce que le mari, en fait, a pris des photos sous les jupes de femmes dans un supermarché, qu'un vigile l'a vu, l'a bloqué, a attendu la police, que la police en fait a dû prendre les photos sur son téléphone pour justement voir si ce que disait le vigile était vrai ou faux, et qu'au moment où ils ont pris les photos, ils se sont rendus compte qu'il y avait aussi des vidéos qui étaient des vidéos de viol de son ex-femme, et qu'il filmait lui avec des gens qui n'étaient pas les mêmes sur chaque vidéo. Voilà, c'est parti comme ça, cette affaire. Et donc on se dit, bah, heureusement, il y a eu ce moment où on a dû fouiller le portable et où voilà. Mais effectivement, combien il y en a? Parce que croire qu'il y a qu'un Pellico, voilà, dans le monde, c'est pas vrai. Et cette notion-là, en fait, on sent en ce moment qu'il y a une espèce de petite musique qui se met en place de bon, après, on s'arrête, on met tout sous le tapis et ça va bien. Et en fait, non, ça va pas. Et je te rejoins, c'est à nous, messieurs, de peut-être se remettre beaucoup en question. C'est à nous de ne pas faire qu'écouter, mais de commencer à croire et d'arrêter à chaque fois de dire « Oh là là, mais non, mais on sait pas, mais machin, tout. » Non, commencer à croire. C'est à nous aussi d'accepter l'idée que mais il y a des moments, faut qu'on la ferme, et puis il faut qu'on écoute, parce qu'il y a des gens qui ont à nous parler. Et puis, c'est pas toujours agréable ce qu'elles ont à nous dire, souvent, mais voilà, faut écouter, faut accepter aussi qu'on a été mauvais, qu'on a pu tenir des propos qu'on n'avait pas à tenir, qu'on a pu avoir des positionnements qu'on n'avait pas à avoir. Et puis, faut accepter l'idée qu'en fait, on n'est pas parfait. Parce que ça aussi, les petits garçons, ils sont élevés dans l'idée qu'ils sont parfaits. La petite fille, non, hein, parce qu'il faut qu'elle se cache, parce qu'il faut qu'elle machin, elle est jamais parfaite. Le garçon, il est parfait. Tout ce qu'il fait, c'est bien. Et ben, en fait, voilà, c'est ça le truc. C'est ce moment, et ce moment, il est important. Et je le dis sincèrement, si on passe à côté, parce que c'est un risque qu'on passe à côté, ben, en fait, on se retrouvera de nouveau, bah, revenir en arrière et à devoir reprendre et recommencer le combat. Alors je sais qu'à chaque fois qu'on avance et qu'on recule, on ne recule jamais d'autant qu'on a avancé. Enfin là, si on pouvait commencer à ne pas reculer, ce serait bien. Et voilà. Et moi je le dis, messieurs qui nous écoutez, c'est avant tout sur vos épaules que ça repose, parce que c'est vous et nous, parce que je suis du genre masculin, c'est nous qui pouvons briser cette société qui est construite pour nous. Et il faut que ceux qui ont les privilèges acceptent de les lâcher. Parce que sinon, en fait, à un moment donné, on ne changera rien. Tout simplement. Voilà.
Ben, merci pour cet ajout. On passe à la zik. Allez, on passe à la musique alors.
La numéro 3 est plutôt simple. Il suffit d'arrêter de lui envoyer des messages. Si elle ne te répond pas au bout de 5 fois, c'est qu'il faut songer à peut-être tourner la page. Arrête de forcer, de l'harpeler comme un ouf. Espace de liberté consiste à choisir l'entourage. Si elle veut pas de toi, passe à autre chose, tu l'étouffes. Le cyberharcèlement condamne l'abus, quel que soit l'âge. 4, traite-la comme ta mère. N'oublie pas que son enfant aurait pu être ton frère. Sois à son écoute, elle n'a pas le même ressenti. Quand t'es convaincu, elle doute, et quand elle t'aime, elle te le dit. Règle 5, pas de manipulation. Les pervers narcissiques en manque d'autosatisfaction. Tu te sens existé par la vampirisation. Pour empiéter sur son espace d'intimité. Ça y est, t'es plus puceau, t'as découvert les désirs. Est-ce que t'es au courant qu'une femme a besoin de plaisir? Tellement dépassé, on dirait un livre de bio. Sur le schéma d'une veuf, t'es oublié comme le clito. Tu fais d'elle un objet? Pose-toi de vraies questions. Si tu l'aimes pour la toucher, c'est que t'aimes juste les sensations. Règle numéro 7, le droit de s'insurger. Le pouvoir de se révolter quand un homme la blesse. La liberté s'arrête lorsque l'on ne peut l'appliquer. L'émotion des coups de poignard dès lors que l'on te rabaisse. La 8 est plutôt claire. La regarde pas comme un bout de chair. Qu'elle soit en jupe ou décolleté, qui te dit qu'elle a voulu te plaire. Rien de neuf pour cette règle, il faut toujours demander. non consenti égale un corps de violet. C'est évident pour certains, d'autres ont besoin qu'on leur dise. L'impunité s'échappe, demande à Roman Polanski. Le dernier commandement, c'est d'appliquer les neuf autres. Ça peut être un enfant, ta sœur ou un de tes potes. Qui que ce soit fait, pas semblant réagir tout de suite. Le pourcentage de viol est bien au-dessus de la limite.
Et vous êtes toujours à l'écoute de Radio Canu et c'est toujours la causerie après 22h. Et on vient de s'écouter le titre Les 10 commandements de l'artiste illustre.
C'est bien.
Oui, il était tout à fait adéquat. Et bien, c'est Fab qui prend la suite et qui nous propose de faire un petit tour chez l'abbé.
Ouais, voilà. Je vous avais dit que ce soir c'était une émission un peu rude. Alors les révélations qui tombent en ce moment autour de ce qu'a fait l'abbé Pierre ont de quoi mettre en colère. Simplement, la colère ne se suffit pas et il faut creuser plus loin. Que faisons-nous d'un système qui protège les ordures? Voilà. Parce que ce qui ressort est quand même effarant. L'abbé Pierre, que je vais appeler Ordure Pierre à partir de maintenant, a donc pu violer et agresser des dizaines de femmes et d'enfants pendant plus de 60 ans dans une impunité totale. C'est de cela dont on parle concrètement. Pas comme on essaye de nous le vendre depuis quelques temps d'un vieux monsieur qui a eu des pulsions en fin de vie. Et encore, ça serait pas plus acceptable, pour être très clair. Mais bien d'un homme qui était méticuleusement et consciemment un violeur de masse. Sauf qu'il est difficile de croire que de tels agissements ont pu avoir lieu dans des dizaines d'endroits différents, au sein de l'Église catholique le plus souvent, sans que personne ne soit au courant. Je fais là un euphémisme. Je sais qu'il était en fait impossible que ce soit le cas. Et l'Église catholique, tout comme la Fondation Abbé Pierre ou Emmaüs, finalement, ne le nie pas. Elles ont toutes des archives qu'elles acceptent d'ouvrir en avance. Elles sont trop gentilles, Une fois qu'elles sont prises les mains dans le sac, elles se découvrent des vertus, Voilà.
C'est la charité chrétienne.
Ah, ça doit être ça. Et promis, elles vont collaborer à l'édification de la vérité. Alors qu'elles le fassent maintenant, que l'ordure Pierre est mort et que la prescription soit admise pour la plupart des cas, c'est un pur hasard, pensez donc, n'allez pas y voir autre chose. Sauf qu'en fait, on est là dans un cas très clair de non-dénonciation de crime. Et ce qui est quand même assez effarant, c'est qu'aucun aucun procureur ne s'auto-saisisse de cela et n'enquête pour mettre ces institutions face à leurs responsabilités, mais aussi, pourquoi pas, trouver les affaires qui ne sont pas prescrites. On voit là toute la protection dont bénéficie l'Église catholique en France et toute la crainte qu'elle suscite toujours aujourd'hui. Alors je mets une petite parenthèse, vous doutez bien que si elle a des archives sur l'abbé Pierre, elle en a sur plein de gens qui fréquentent l'Église catholique. Ça aide à pas être trop embêté. D'ailleurs, on peut aussi s'interroger sur la notion de justice privée. En effet, face aux nombreux cas de crimes sexuels contre des mineurs, l'Église catholique a mis en place une commission, la CIAZ. Alors elle est fermée, la CIAZ, mais elle l'avait mis. Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église. Commission qui n'est pas présidée par un magistrat et qui a obtenu un droit de réserve sur ce qu'elle découvre. C'est fabuleux quand même. On pense halluciner, mais non. On laisse donc l'Église catholique gérer en interne et sans l'application de la loi. C'est ce que ça veut dire. La CIAS, d'ailleurs, se souvient d'un coup que oui, tiens, on lui avait bien parlé de l'ordure Pierre et qu'elle avait en effet des signalements. Bon, elle a oublié d'en parler, et c'est parce que des journalistes ont creusé qu'elle a été obligée de l'admettre. En même temps, la CIAS a fait état de plus de 330 000 victimes, chiffre contesté par les associations de victimes qui estiment que le chiffre est minoré, en 30 ans. 330 000 victimes en 30 ans. Elle n'avait sans doute donc pas le temps de donner les noms des hommes d'église impliqués à la justice, vous pensez donc, parce que ça en aurait fait sûrement beaucoup. Voilà.
Et là, il y aurait plus grand nombre pour présider les offices religieux.
Par exemple. Et là, vous commencez à vous demander pourquoi elle n'a rien dit justement cette CIAS. Eh bien, parce que la CIAS, comme tout ce qui est fait dans l'église catholique, repose sur une idée très simple. Si Jésus a pardonné, tu peux bien pardonner aussi et la fermer. Ça vous choque? Et pourtant, c'est ce que des dizaines de victimes disent avoir reçu comme consigne lorsqu'elles ont parlé. Et ce n'est pas neuf dans l'Église catholique. On parle quand même d'une institution qui a encouragé l'esclavage avant de convertir massivement les anciens esclaves. Croyez-le ou non, c'est une experte en manipulation de masse. Et cette notion de pardon, qui, je le rappelle, ouvre quand même les portes du paradis, selon les textes catholiques, c'est une arme de masse pour cacher tout ce que l'Église catholique ne veut pas qu'on regarde de trop près. Les crimes sexuels, mais aussi le fait que le Vatican soit une place forte du blanchiment d'argent, le fait qu'elle ait encouragé les pires choses dans l'histoire, mais ce seraient des hommes qui se seraient égarés, faut donc pardonner, etc., etc., etc. C'est une vraie usine à protéger le pire, et ce, depuis des siècles. Donc il n'y a pas vraiment de surprise Voilà. Alors, le cas de l'ordure Pierre, est, on est presque dans un banal pour cette institution. Nous, ça nous choque, mais pour l'Église, bah, c'est un cas de plus à traiter. Pas pour les victimes, hein, qui, elles, ont vécu l'horreur, on va être très clair. Et c'est cette banalité qui permet, une fois de plus, à l'Église catholique de s'en sortir. Parce que pour les médias, ils s'emparent de moins en moins de ces scandales. La justice non plus, parce que c'est justement banal. C'est-à-dire que bah, y en a tellement qu'en fait, on se dit, bah, c'est comme ça. Pourtant, cela devrait non seulement nous révolter, mais en prime nous pousser à demander des comptes et à interdire cette secte vaticane, à demander la fermeture pour protéger les enfants et les victimes potentielles. Comme cela est fait pour les mosquées, par exemple, quand un prêche haineux est tenu. Il est quand même dingue de se dire que quand dans une église, on sait qu'il y a eu un prêtre qui a commis de la pédocriminalité, on ne ferme pas l'église, on change le prêtre, vous voyez ? Bon, les mosquées, on les ferme. Hein. Mmh. On va faire un petit peu m'expliquer la... Ah oui, le racisme. Non, pardon, je suis jamais venu. Mais non, rien n'est fait, pas même une réaction du ministre de l'Intérieur. Hein, je vous rappelle, Darmanin, hein, qui est toujours ministre démissionnaire de l'Intérieur, mais qui est toujours ministre de l'Intérieur, il nous en a... Dès qu'il y a un fait sur autre chose que l'Église catholique, oulala, mais là, il fonce. Hein. Mmh. Par contre, là, rien. Parce qu'on ne touche pas à l'Église catholique. Voyons. Que l'ordure Pierre se soit servie pendant des années de sa notoriété et de sa position privilégiée et protégée par quelques puissants pour s'adonner à des crimes odieux ne suffit même pas à ce que l'opinion se soulève. C'est ça qui est problématique. Et c'est sans doute là qu'on voit à quel point la culture patriarcale et religieuse pèse encore sur nous globalement. À quel point la majorité sera toujours prête à pardonner au sens chrétien du terme. C'est immonde de le constater avec un tel déni du réel. C'est que l'Église catholique a le temps. Elle sait qu'elle pèse encore, elle sait qu'elle a des choses aussi simples que le fait que les jours fériés soient liés à son calendrier, que ses messes soient diffusées sur la télévision publique et qu'elle soit concertée sur les lois alors que nous sommes dans un état soi-disant laïque. Elle connaît son poids, l'Église catholique. Il faut aussi se méfier des fausses pistes. On voit comme à chaque fois ressurgir l'idée que les crimes sexuels résulteraient d'une frustration liée au célibat des prêtres. À chaque fois qu'il y a une affaire, c'est ce qui sort. C'est un contre-feu. C'est sans lien et tout le démontre. Il y a des millions d'hommes célibataires en France et le taux de violeurs n'est pas plus élevé chez eux que chez les hommes mariés. Ce qui ne veut pas dire qu'il est faible. Hein.
Non,
je précise, je reviens à ce que tu disais dans le, juste avant. Parce que oui, c'est tous les types d'hommes qui violent. Même si c'est facilité par les positions de pouvoir, bien entendu, et là par contre, on voit une différence. Les hommes ayant une forme de pouvoir passant légèrement plus à l'acte que ceux qui n'en ont pas. Voilà, donc on voit bien que le pouvoir vient s'additionner au reste. Alors oui, l'appel de l'ordure Pierre de 1954 restera. Oui, on n'oubliera pas qu'il a été résistant, mais c'est pas parce qu'on fait d'un côté des choses positives que de l'autre on ne peut pas être un criminel par ailleurs. Là aussi, méfiance hein, sur la notion de monstre, de diable, de possédé dont se sert l'Église pour se dédouaner de tout. Nous jouer de la flûte sur une intervention des forces du malin et autres fadaises qui construisent depuis là aussi des centaines, voire des milliers d'années. Ah oui, parce que
bah
c'est facile, c'est le diable.
Bah oui, et puis c'est le cœur de leur ouvrage. Hein.
Bah oui. Alors vous l'aurez compris, à mes yeux, les révélations autour de l'ordure Pierre viennent évidemment éclairer ce qui était cet homme, mais au-delà de ça, ça démontre bien la construction sectaire de l'Église catholique, sa capacité à protéger ses membres, à faire pression pour éviter les procès et autres mises en lumière. Je fais une parenthèse, l'Église de Scientologie fait exactement la même chose. Mmh. Voilà, vous vous renseignerez, hein, l'Église de Scientologie fait exactement la même chose. Donc c'est bien une construction sectaire, groupusculaire. Voilà. On peut continuer à tourner autour du pot et à dire que non, les religions ne sont pas des sectes, mais tout démontre qu'elles sont qu'elles le sont et le reste, qu'elles agissent d'ailleurs comme telles et qu'elles utilisent les mêmes méthodologies. Alors mes pensées, et je pense celles de la causerie, vont évidemment aux victimes. Ma colère, elle, va à la destruction de ces institutions qui permettent aux ordures d'être et de prospérer, même si ces institutions sont millénaires. Parce qu'après tout, c'est pas parce que c'est vieux que ça peut pas être détruit.
Oh non, surtout pas. Et en fait, pardon, je me disais, mais c'est quand même fou qu'aucun procureur ne se saisisse de 330 000 cas de victimes.
Mais c'est ça le truc.
Ah oui, bah on retombe en fait sur. En fait, c'est un peu tout ce qu'on a dit ce soir. C'est-à-dire qu'on vit clairement dans une société qui protège les violeurs. Et en même temps, quand vous avez autour du pouvoir. Maintes cas d'agresseurs ou de violeurs, alors il faut faire attention parce qu'on parle de ministres, donc supposés violeurs agresseurs, hein, qu'on puisse pas me, me prendre en diffamation, mais genre un Darman, enfin dans les sphères du pouvoir, on en compte des tonnes, et souvent aussi affiliés à des religions, puisqu'ils adorent beaucoup acheter leur place au paradis. Faut croire qu'ils en ont vraiment besoin.
Et que le pardon chrétien permet de tout faire, mais après t'es pardonné, donc
c'est
ça
bien.
Roule. Hein, je veux dire.
C'est bien mon propos. Et donc vraiment, on est comment on voudrait que ça change en fait, quoi. Et là encore une fois, c'est peut-être parce qu'on est toujours à se dire, en fait, on réclame au pouvoir. Mais en fait, il va falloir le foutre sous pression, mais une pression qu'il n'imagine même pas, pour que d'un coup, il se mette à changer les choses. Parce que l'État ne le fera pas, en fait. L'État est là pour toutes sortes de choses, mais il est surtout là pour protéger les intérêts de tous les pourris, en fait. Quoi, que ce soit de l'argent, que ce soit sexuel, ou que ce soit tout ça. Il est là pour ça, et pour un statu quo. Et donc, vraiment, c'est à la société de dépasser l'État, encore une fois, sur ce sujet-là aussi, pour espérer avancer, quoi. Enfin, parce que vraiment, quand t'as des institutions comme ça qui sont là depuis longtemps et qui effectivement ont un pouvoir assez incroyable, même dans cette belle France laïque, et ben c'est qu'on a clairement pas tué le roi, mais pas Dieu non plus, quoi.
Ah bah Dieu, non, c'est sûr.
Le roi, il continue de les lire tous les 5 ans.
Non, mais je veux dire, Dieu, on peut pas le tuer, il n'existe pas.
Bah oui.
Mais
c'était sa notion.
Pardon. Non, mais je te rejoins, pardon. Je
non, vas-y.
Non, mais je te rejoins. Et surtout, il y a quelque chose qu'il faut. Enfin, moi, j'ai lâche gueule après l'Église catholique, mais on va te dire, toutes les religions, toutes les religions, hein, quelles qu'elles soient, partout dans le monde, servent avant tout à asseoir du pouvoir. C'est des outils de pouvoir basiques, mais c'est des outils de pouvoir basés sur la peur, sur l'être humain a peur de mourir, c'est comme ça, donc en fait on se sert de cette peur, on le sait, c'est partout la même chose. Ou des fois c'est pour légitimer, parce que souvent on me dit, ah oui mais regarde les hindous ou les bouddhistes, c'est pas pareil. Bah si, parce qu'ils ont inventé un truc qui s'appelle le karma, qui n'existe pas, et où soi-disant si t'arrives que des trucs de merde dans ta vie, c'est pas parce que t'es dans une position sociale merdique, non, c'est parce que t'as été méchant dans ta vie antérieure. C'est un peu facile, mais bon. Ouais. Donc c'est toujours des outils de pouvoir. Et la vraie question, et ça rejoint ce qu'on se disait juste avant, après ta chronique, c'est que la vraie question qui se pose, c'est est-ce qu'on a envie ou pas, à un moment donné, d'abattre ces outils de pouvoir. Et là, c'est vraiment la question qu'il faut se poser maintenant. C'est valable pour une justice qui est patriarcale, c'est valable pour des religions aussi. Et en fait, à un moment donné, il va falloir se réaffirmer comme voir en fait ce que sont réellement les outils religieux dans une société et à quoi ils servent. Et tout le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que parce qu'on vit dans un pays laïque, on a l'impression qu'en fait ça veut dire qu'il faut qu'on ait une sorte de concorde qui fait qu'il n'y aurait plus de critiques à amener sur le religieux. Mais c'est pas vrai. D'abord, la laïcité, ça s'applique pas à l'ensemble de la société, ça s'applique à l'État. À l'État et à ses serviteurs. Donc en fait, en gros, serviteurs, c'est les gens qui servent l'État, enfin qui travaillent pour l'État. Donc en gros, ça, c'est la sphère étatique. Bon, voilà, et les mairies, tout ça, enfin tout ce qui est de l'ordre du politique, voilà. Sauf qu'en fait, ça s'applique pas à la société. Je veux dire, en fait, à un moment donné, la laïcité, c'est une loi, elle existe, comme on l'a déjà dit dans l'émission, c'est une loi minimale pour respirer à nos yeux, mais voilà. Mais par contre, ça, la laïcité ne dit pas qu'on n'a pas le droit de critiquer les religions, ne dit pas que les religions seraient à part du reste de la société. Donc effectivement, ta question, elle est bonne, c'est comment on peut y avoir autant de cas mis sur la table et aucun procureur qui s'auto-saisisse. Comment on peut avoir aussi des cas parfois qu'on connaît et où on laisse, par exemple, le Vatican déplacer des prêtres ou déplacer des évêques dans des pays qui n'extradient pas vers la France ? Parce que on sait que comme ça, ça les protégera. C'est aussi une réalité. C'est-à-dire que on sait que ça a existé. Il n'y a pas, par exemple, d'extradition entre le Vatican et la France.
Oui.
Donc ces prêtres sont ramenés au Vatican. Donc ce qui veut quand même dire qu'à un moment donné, on sait pertinemment ce qu'on fait quand on prend quelqu'un et qu'on le ramène dans un endroit où il ne pourra pas être expatrié. Non, comment on dit si c'est expatrié. Non.
Non.
J'ai dit le mauvais nom. Bref.
Extradé.
Extradé, pardon. Oui, c'était ça que je voulais dire. Qu'il ne sera pas extradé vers. Et donc en fait, c'est bien une protection. Or, qui protège ? C'est bien l'Église catholique. Moi, quand je vois le pape nous dire là, gentiment, ah oh là là, voilà, décidément, l'abbé Pierre, c'était un grand pécheur. Bon, alors, on savait pour avant, mais après, on savait pas. On a su après sa mort, parce que c'est aussi facile. Genre, on a su après. Non, mais arrêtons, quoi. Arrêtons de penser qu'un outil aussi aiguisé que sont les églises, un outil qui depuis des millénaires pratique le contrôle social sur des populations, un outil qui a des registres qui gèrent tout, parce que l'église c'est comme un comptable, vous savez, ça garde tout, ça a tout sur vous. C'est pour ça qu'ils ont des archives sur les gens, parce qu'en fait moi je suis super surpris qu'on ait des archives. Vous imaginez, ça veut dire qu'on a des archives sur tout ce qu'a fait les prêtres et tout, mais c'est quand même bizarre de tout archiver. Mais ça, en fait, tout ça, c'est des outils de contrôle qu'on connaît. hein, le droit à l'oubli, par exemple, ça n'existe pas dans l'Église catholique. Vous voyez, vous êtes baptisé toute votre vie. Et ben, en fait, voilà, c'est ça le truc. Et en fait, ben, se dire en fait qu'il suffit qu'il y ait un mec en blanc qui arrive et qui dise ah là 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 là, bah c'était un méchant, hein, bah vraiment c'est pas bien, et que ça devrait suffire et que les victimes devraient s'en contenter, et surtout qu'on devrait surtout pas aller interroger le reste, bah excusez-moi mais c'est un peu facile, sauf qu'on en est là en fait. Moi je trouve que quand la presse par exemple reprend le pape a dit machin, il y a pas un journaliste ou quelqu'un qui va dire mais c'est honteux.
C'est ça en fait.
C'est honteux de faire ça.
Ça manque d'analyse journalistique et critique. Quoi.
Est-ce qu'on imagine quand même à un moment donné qu'on a là un chef d'église et chef d'État, parce que le Vatican est un État, qui nous explique gentiment qu'il était un peu au courant après la mort de l'abbé Pierre. L'abbé Pierre, il est mort il y a un petit moment. Hein. Bah là, ils ont oublié de nous le dire. Ils étaient au courant, mais ils ont oublié de dire qu'ils savaient qu'il y avait des victimes. Voilà. Donc déjà, ça devrait choquer. Ben non. Rien, personne réagit à ça, tout va bien. Et puis on se dit, ah bah ouais, mais le pape il a dit, alors c'est que c'est bon quoi. Ben non, c'est pas bon. Je veux dire, la justice elle est pas divine, hein, elle est humaine. Hein. Donc en fait, à un moment donné, ben on doit rendre des comptes quoi. Et moi je vous le dis, et là moi j'entends aussi, et je vais le dire avec mes mots, pardon, hein, mais quand j'entends Emmaüs et la Fondation Abbé Pierre dire qu'ils vont changer de nom, mais fermez en fait. Arrêtez de jouer, fermez, dissolvez-vous, et c'est tout. Arrêtez, faites autre chose. Mais non, continuer sur ces fondations-là, c'est juste, c'est un crachat au visage de toutes les victimes. Et je vous rappelle que dans le cas de l'abbé Pierre, c'est aussi des mineurs. Voilà, donc à un moment donné, parce que vous ne me ferez pas croire que les gens qui ont été formés par quelqu'un qui pratiquait ça n'ont pas dans l'idée ou n'ont jamais été dans l'idée de se dire qu'ils pouvaient faire comme lui. Voilà, je le dis avec mes mots, je le dis. Alors vous pouvez m'attaquer en diffamation parce que j'ai vu que ils aiment pas quand on dit ça, mais sauf que moi je suis désolé, quelqu'un qui a une position de pouvoir, qui pratiquait des choses pendant 60 ans sans être emmerdé, ne me faites pas croire qu'il a pas eu de disciples. Hein. C'est pas possible. Non. Donc fermez. Dissolvez-vous, faites autre chose, donnez les millions que vous avez en caisse à d'autres choses, parce que vous avez des millions. Oui, parce que c'est aussi ça qu'on oublie. C'est des fondations qui ont des millions d'euros, hein, en caisse. Donc donnez-les. Voilà, faites autre chose. Et soyez un peu, pour une fois, courageux. Et arrêtez de nous balader à dire on est très, 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 très touché, peiné, et on va changer. Non, non, vous n'êtes pas peiné, en fait. C'est pas vrai. Vous voulez juste perdurer et continuer comme avant, en changeant juste de nom. Voilà, c'est tout ce que vous voulez faire.
Oui.
Et c'est exactement ce que la CIAZ a fait dans l'église, en disant oh oui, on sait qu'il y a eu des abus, mais par contre, on s'est arrêté à tout ce qui avait des prescriptions. Alors désolé, on peut pas vous donner des noms.
Ouais, c'est ça qui est ouf en fait. Bah, hein. Ouais. Et en même temps, je me disais, ben en fait, la CIVIS, elle, avait un juge à sa tête.
Bien sûr, c'est
l'État l'a démantelé.
Ah oui.
Et par contre, voilà, sur le reste, en attendant rien donc de l'État ni de la justice, faut croire que
je reste persuadé.
Sourd et aveugle.
Alors moi, je le dis, je reste persuadé et je rejoins l'analyse de deux personnes que j'ai entendues à la radio. J'ai perdu le nom, donc pardon, qui disaient qu'en fait, si la CIVIS a été autant attaquée, c'est justement parce qu'au sein des gens qui avaient parlé, il y avait des gens d'église et de plusieurs églises. Il y avait l'église catholique, l'église orthodoxe protestante, l'église, les juifs aussi. Je ne sais pas si on ne dit pas église, d'ailleurs on dit les temples juifs. Il y avait donc voilà, et des musulmans. Donc en fait, il y avait plein de prélats, voilà, de gens qui étaient. Et donc en fait, ça a fait paniquer parce que vous vous rendez compte, en fait, on allait s'attaquer à ces trucs-là. Mm-hmm. Sauf qu'en fait, en France, on ne s'attaque pas aux religions. C'est ça le fond du problème.
Oui.
Voilà.
Mais
je pense que c'est une des raisons pour laquelle on a voulu démanteler. Classique, pas la seule, mais une des raisons.
Et puis, mais ce qui est aussi dramatique, c'est que nos milieux, alors évidemment, on ne représente pas grand-chose face à des millions de gens, tout ça, mais quand même dans nos milieux, en fait, vraiment la critique de tout ça, et même ne serait-ce que ces thématiques des violences envers les enfants, etc., ça commence à émerger, mais il est plus que temps, il va vraiment falloir secouer et remuer la merde dans tous ces seaux qui se sont accumulés, parce que ça ne changera pas. Si on ne bouge pas, si on ne remue pas tout ça, ça ne changera pas. Et si on n'ose pas citer, si on n'ose pas dénoncer des clergés, etc., ben en fait, arrêtons de jouer les révolutionnaires, rentrons chez nous, faisons une petite soupe et arrêtons de jouer à tout ça, quoi. Parce que vraiment, ça n'a pas de sens, si ce n'est une posture et une. Et c'est tout, quoi. Enfin, bref. Voilà. On passe peut-être à la musique.
Ben allez, c'est parti. Allez. Une petite musique douce dans vos oreilles.
Strange impulse out on the plains of West Texas. There's many a young boy who feels things he can't comprehend.
town don't like it when somebody falls between the sexes. No small town don't like it when a cowboy has feelings for men. And I believe to my soul that inside every man is the feminine. And inside every lady, there's a deep manly voice, loud and clear. And a cowboy may brag about things that he's done with his women. But the ones who brag loudest are the ones that are most likely queer. Cowboys are frequently secretly fond of each other. What did you think all them saddles and boots was about? There's many a cowboy who don't understand the way that he feels for his brother. And inside every cowboy there's a lady that loved to slip out. Somebody who says what the others just whisper. And mostly that someone's the first one to get shot down dead. But when you talk to a cowboy, don't treat him like he was a sister. You can't fuck with a lady that's sleeping in each cowboy's head. Are frequently secretly fond of each other. What did you think all them saddles and boots was about? There's many a cowboy who don't understand the way that he feels for his brother. And inside every lady there's a cowboy who loved to come out. And inside every cowboy there's a lady who loves to slip out.
From Nashville, Tennessee. Vous êtes bien dans, bah oui, vous êtes bien dans la causerie. Au 102.2 sur RadioCanu.org et vous venez d'entendre Orville Peck et Willie Nelson avec Cowboys are frequently, secretly fond of each other. Ce qui veut dire les cowboys sont souvent amoureux secrètement les uns des autres. Voilà. Et c'est un titre que j'aime bien parce qu'il a été sorti, je crois, cette année, au début de l'année. Et l'idée, c'était Orville Peck, donc Orville Peck en français. Est un cow-boy vraiment de formation. Il est son métier au départ et il fait aussi de la country. Alors c'est quelqu'un qui d'ailleurs est toujours masqué. Enfin, il a toujours des espèces de rideaux devant le visage volontairement. Et c'est un des premiers à avoir été ouvertement homosexuel et à faire de la country. Et il allait chercher Willie Nelson, qui est quand même le demi-dieu de la country aux États-Unis. C'est-à-dire que ça fait 65 ans qu'il a une carrière de countryman, pour lui dire: est-ce que tu voudrais pas chanter une chanson avec moi qui s'appelle Les Cowboys s'aiment secrètement entre eux? Et Willie Nelson a dit oui, il est temps quand même un petit moment qu'on dise la vérité. Et donc ils ont chanté cette chanson. Ça a fait scandale chez les rednecks américains, enfin chez toutes les on va dire les country pro-Trump américains, on va dire plutôt à droite. Ça a beaucoup plu à ceux qui aiment la country et qui sont pas à droite. Et en fait c'était une façon pour eux de dire il y a aussi des gens qui ne sont pas hétéros et blancs et qui font de la country et ça va bien se passer. Voilà, et j'ai trouvé le titre assez marrant. Donc voilà.
Tout à fait.
C'est pour ça que je voulais le passer ce soir.
Eh ben merci beaucoup. Je voulais juste rajouter ce que j'ai oublié de le faire après le sujet de Fab. En fait, c'était juste vous rappeler, amis auditeurs, auditrices, qu'on en a parlé de ces trois films-là, mais vraiment, on vous invite justement autour de... T'es souhaits, là.
Elle a pris froid.
Justement autour de la capacité des religieux, et pas uniquement cathos, à foutre sur le côté tout ce qui ne va pas, à ne pas regarder ce qui ne va pas. Pour rappel, hein, il y a le film Spotlight qui se passe aux États-Unis. Alors, je ne sais plus dans quelle ville exactement. Non, c'est pas Denver, c'est, je ne sais plus. En tout cas, Spotlight. Il y a aussi le film Grâce à Dieu. Ça, amis lyonnais, lyonnaises, je vous invite à le voir parce que, ça se passe en bas de chez vous. Et le film aussi M, qui se passe autour de viols pédocriminels qui ont été faits dans la communauté hassidique. Donc voilà, vraiment, c'est très important.
Juif hassidique.
Oui. Oui, en même temps.
Juif
hassidique.
Non, pas que les gens pensent que tu parles des hassidiques, c'est pas la même chose.
Ah non.
C'est pour ça que je précisais. Non, mais c'est pas pour faire un mauvais jeu de mots, mais voilà.
Non, donc
tout
voilà.
Tout le monde sait pas ce que c'est.
Spotlight, Grâce à Dieu et M, juste la lettre M. Voilà. On termine, pardon, c'est Fab, t'as quelques brefs peut-être ?
Ouais, alors lundi 16, donc demain à 9h, rendez-vous au tribunal judiciaire de Lyon, c'est dans le 3e, c'est rue Servian, c'est un rassemblement de soutien aux prisonniers kanaks, prisonniers politiques kanaks qui sont jugés demain. Donc, c'est pour les soutenir. Vous avez aussi, demain aussi, des assemblées pour la création de comités de quartier de lutte, c'est place Guichard à 18h demain. Voilà. Nous avons aussi, je vous donne un peu tout en vrac. Vous avez, parce que j'ai perdu le troisième, pardon, oui, vous avez un appel à rassemblement contre une conférence transphobe. Alors ça, c'est jeudi 19 septembre, et juste pour vous expliquer, hein, les identitaires de l'ISSEP, alors vous savez, c'est l'école qui a été fondée par Marion Maréchal Le Pen, Marion la facho, s'allie avec Marguerite Stern, qui est aussi nana d'extrême droite, pour organiser une conférence transphobe, hein, le 19 septembre à Lyon, voilà.
Heureusement qu'elle n'était pas d'extrême droite, Stern.
Ouais, mais elle n'est pas d'extrême droite, mais elle est souvent avec des gens d'extrême droite.
Oui, c'est ça. C'est...
L'idée, c'est de ne pas laisser se tenir, en fait, cette conférence qui est là pour nier l'existence des personnes trans dans notre société, tout simplement, comme le fait depuis très longtemps Marguerite Stern et très longtemps Marion Maréchal aussi. Ça se passera, je vous retrouve le lieu de rassemblement tout de suite. C'est devant l'ICEP, en fait, donc 56 rue Denusière, dans le 2e. C'est, je trouve, très courageux.
Oui, et soyez vigilants si vous y allez, parce que forcément, il y aura des petits nervis nazis qui seront autour pour certainement protéger leurs copains et leurs copines transphobes. Et soyez vigilants et vigilantes, mais ça n'empêche pas d'y aller.
Et pour finir, parce que quand même, sur une note positive, le 21 septembre, donc samedi, il y a une soirée de soutien pour la boulangerie. Alors tout le monde dit, mais qu'est-ce que c'est la boulangerie ? Eh bien la boulangerie, c'est un nouveau squat qui a ouvert pour loger des gens qui étaient à la rue et qui a ouvert à Villeurbanne, mais sauf qu'il faut rénover des trucs. Et donc il y a besoin d'un petit peu de bras, puis aussi d'un petit peu de sous, hein, accessoirement. Ça se passera à l'ECG, hein, l'espace, j'ai perdu le nom, je vais retrouver ça.
Communal de la Guillotière.
Voilà, c'est ça. À l'ECG, et c'est donc 27 rue Salomon Rénac dans le 7e, et vous pourrez donc aller faire des tatouages à prix libre. Voilà, vous pourrez avoir chanter un karaoké aussi, où il y aura aussi des DJ sets, il y a une petite cantine parce que ça commence à 14h et on peut avoir quand même faim dans la journée. Donc voilà, et l'idée c'est de récolter de la thune, hein, pour aider cette boulangerie qui est au 172 rue Yvonne Chanu à Villeurbanne et qui compte aujourd'hui une vingtaine d'habitants. Voilà. Okay. Et c'était, je trouve, l'initiative plutôt cool. Donc, j'ai envie de vous la donner.
Eh bien, très bien. On va se quitter. On est à l'heure. C'est formidable, ça. Je le dis pas trop fort à Fab, sinon il va continuer.
Il n'est pas très sympa. Allons, hein. Vraiment.
Il n'est pas très honnête.
Ça, c'est vrai aussi.
Et bien, donc, nous, on vous donne évidemment rendez-vous la semaine prochaine.
Ah, tu dis pas
ah non, mais
les
si, blogs, ah ouais, attends.
Ouais, bon.
Je me disais, il manque un truc. Donc, évidemment.
On peut compter sur toi.
Non, jamais. Et donc, évidemment, on dit des petits rappels avant de se quitter. Donc, si vous voulez nous écrire, c'est par mail à l'adresse suivante, la causerie Radio Canu, la causerie Radio Canu.
Alors le gars, ça fait.
Non, la causerie Canu.
Ça fait combien d'années qu'il est dans l'émission ? Il l'a fondée avec nous, hein, quand même.
Je vais peut-être partir. En fait.
Il sait toujours pas.
Il serait temps. Hein.
En tout attaché, la causerie Canu@gmail.com, la causerie Canu@gmail.com.
C'est tout à fait ça.
Merci, le blog, peut-être ?
Mais bien sûr, le blog, c'est à blogs.radiocanu.org/lacauserie où dans votre petit moteur de recherche, vous cherchez Radio Canu, la causerie, et vous tomberez sur nous. Vous retrouverez évidemment cette 532e émission sur le blog, mais aussi sur les différentes plateformes d'écoute de podcast. Et on a aussi une page sur le réseau socio-commercial Facebook, mais c'est vraiment juste pour du partage. Donc on vous invite tout le temps, on le dit, hein, mais tout le temps, mais si vous voulez nous contacter ou si vous voulez laisser un commentaire sur l'émission, on vous invite vivement à le faire sur le blog de l'émission. J'ai rien oublié là ? C'est bon.
Si vous voulez nous partager aussi sur vos différents réseaux, à vos amis, si vous voulez nous faire connaître, bah, n'hésitez pas, parce que c'est grâce à vous que, bah, qu'on est connu, voilà. Parce qu'on n'a pas les moyens de faire de la pub en 4x3.
Non, mais par contre, on a des petits stickers. Le gars qui revient toujours avec ses stickers. On a des super petits stickers de la causerie. Il y en a aussi peut-être de Radio Canu. Il faut que je vérifie si on en a encore ici. Si vous voulez avoir des stickers, etc., pareil, envoyez un mail et on s'arrange pour vous les faire parvenir rapidement. Voilà.
Voilà.
Et ben, on va se quitter donc en musique. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, dimanche à partir de 22h sur l'antenne de Radio Canu. Sauf une.
On se demande qui c'est. Hein.
Ouais,
on
c'est vrai, tu on nous lâches pas. Encore la semaine prochaine.
Ah, mais toi, encore, encore.
Il donne le nom, quoi.
Non, moi, je... Sérieux, quoi.
C'est incroyable. on est plus libre, quoi.
Mais c'est clair.
Amis auditrices, auditeurs, si vous n'avez pas de nouvelles de moi d'ici la semaine prochaine, c'est que Clara aura réglé ses comptes avec moi. Et vu le regard qu'elle vient de me lancer, j'ai peur.
Et donc, on va se quitter en musique avec un petit titre. Je profite. Alors, il nous écoute certainement pas, mais un petit bonjour à la radio bretonne Kier Breitz, sur laquelle j'ai pu découvrir le titre avec lequel on va se quitter. C'est donc le groupe Saudage. Oh, j'espère que je prononce bien. Et le titre, je sais pas comment le dire, c'est 5 sur 8.
5 huitièmes.
5 huitièmes, en tout cas, 5/8. Oui. Voilà. De mémoire, ça vient de la Réunion. Et ben voilà, on vous laisse en musique. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Faites attention à vous et aux gens qui sont autour de vous. Et puis, des bisous.
Des bisous, salut.
À tantôt.
Ciao.
Tout ça là. Tout ça là. Tout ça là. Tout ça là, t'es bien Gaïa, sans mou vivement encore une fois. N'en trouve le goût. Travers sentier, soleil rayonné, casse la blague, n'en commence épouffée. Look, looké dans le fond, ou la pape, sa pédalon. Ou pape, sa pédalon. Ou pape, sa pédalon fond. Allons, masse, un bout dans l'ombrage. Oui, son mal, la rivière, ça l'est long. Chante, chanson, romance, vieux amants, fervent son main plus vitement. Fervent son main plus vitement. Fervent son mazina.
final temps, sauf faire un fumée ou de boucan.